Nous avons achevé la série qui nous a retenu 2 ans ou même peut-être davantage. Et cette séance de notre institut biblique, deuxième partie du culte, est consacrée à un sujet unique, celui de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dès maintenant, je vous invite à me communiquer, quand vous le voudrez, des suggestions pour les instituts bibliques de l'année prochaine. Dieu voulant, à partir du mois de septembre, nous aurons aussi notre institut biblique mensuel. J'ai eu une proposition ou une demande que le sujet de la guerre soit traité. Je pense que ce peut être mis au programme, sans doute 2 séances sur ce sujet difficile. Mais si vous avez d'autres propositions, je ne sais pas si l'Institut biblique de septembre sera un institut biblique en 2 groupes, 3 groupes, ou un institut biblique commun, comme assez souvent le premier de l'année laborieuse est un institut biblique commun. Nous n'avons pas encore décidé, mais de toute façon, nous aurons des groupes divers au cours de l'année 99-2000. Je vous invite, pour introduire notre étude de ce matin, à suivre la lecture d'un chapitre du Nouveau Testament dans la première épître de Jean, de l'apôtre Jean. Nous lisons le chapitre 5, le dernier chapitre de la première épître de Jean. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et quand nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Et ces 3 sont un. Il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et ces 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie. Et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu. et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable et dans son Fils, Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je vous invite à prier ensemble maintenant. Est-ce que Monsieur Weyenberg voudrait nous conduire dans la prière ?
Que tu réserves à nous dans ta parole, que tu réserves ton infini amour que tu as pour nous, en ce que tu as envoyé ton Fils pour le sacrifier. Seigneur, nous te remercierons éternellement, car nous avons la vie éternelle. Et nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions que ta parole peut être ouverte à chaque moment, qu'elle nous est ouverte et que tu nous instruis. C'est pour cela, Seigneur, que je te demande aussi de bénir notre Père Henri pour que l'éducation qui va nous donner de ta parole soit claire et perceptible à nos oreilles, qui sache le bien de notre art et notre glorification. Notre Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Vous avez vu sans doute à l'arrière de la voiture de certains de nos frères et sœurs un poisson collé, excellente habitude qui est en train de gagner parmi les chrétiens évangéliques. Elle remet au goût de notre fin de millénaire ce qui était, paraît-il, la coutume des premiers chrétiens. Ils dessinaient un poisson comme signe de reconnaissance. Et vous savez pourquoi ce choix du poisson comme symbole? C'est parce que le mot poisson, en grec, ictus, est un acronyme de la formule Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Si vous prenez la première lettre des mots qui constituent cette confession de foi, Jésus-Christ, de Dieu, le Fils, Sauveur, strictement dans l'ordre, en grec, ça vous fait le mot ictus, poisson. Et c'est pour cette raison que le poisson avait été choisi comme le symbole de la confession de foi chrétienne. Le titre de Fils de Dieu est celui qui est immédiatement associé au nom de Jésus-Christ dans cette confession. Dans le Nouveau Testament, on rencontre ce titre très souvent. Je peux rappeler que lorsque Paul a commencé de prêcher à ses jeunes convertis, d'après le chapitre 9 du livre des Actes et le verset 20, il nous est dit qu'il s'est mis à prêcher, démontrant partout, à tous, que Jésus est le Fils de Dieu. C'est aussi ce titre de Fils de Dieu qui suscitait les controverses les plus âpres entre Jésus lui-même et les chefs du judaïsme de son temps. Nous voyons que dans ces discussions avec les docteurs de la loi et autres théologiens dans l'évangile selon saint Jean, ce qu'ils reprochent à Jésus, c'est de se dire fils de Dieu, de dire que Dieu est son propre Père, et de se faire ainsi l'égal de Dieu. C'est le point sur lequel il l'attaque sans cesse. Et au moment de son procès, vous vous rappelez quelle a été la question du grand prêtre, d'après le chapitre 26 de l'évangile de Matthieu. Il a conjuré Jésus de dire s'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a répondu son fameux « tu l'as dit », qui veut dire à la fois « oui », mais je te laisse la responsabilité de la façon dont tu le comprends. C'est une réponse qui n'est pas un simple « oui », parce que Jésus savait très bien que dans la tête du grand prêtre, ça ne voulait pas dire exactement ce que cela devait vouloir dire. Mais c'est le titre à propos duquel les accusations fusaient, et le procès de Jésus, c'est auprès des autorités juives en tout cas, s'est concentré sur ce titre de fils de Dieu. Et dans le chapitre 5 de la première épître de Jean, nous venons de lire avec quelle insistance l'apôtre bien-aimé du Seigneur a répété « Nous sommes ceux qui croyons au nom du Fils de Dieu et qui, ayant le Fils, ayant reçu le témoignage que Dieu lui-même rend à son Fils, avons en lui la vie éternelle. » C'est vraiment ce que martèle tout le chapitre que nous venons de relire. Pourtant, ce titre de Fils de Dieu paraît bizarre à beaucoup de nos contemporains. Ils ne comprennent pas très bien ce que cela peut vouloir dire, que cet homme, Jésus, ils sont prêts à dire c'était un grand homme, c'était un grand initié, c'était un grand bienfaiteur de l'humanité. On ne voit pas ce que peut vouloir dire qu'il porte le titre de Fils de Dieu. Et c'est ce titre aussi qui est la pierre d'achoppement dans le chemin des musulmans, comme nous le savons bien. C'est ce qui les choque le plus brutalement dans le christianisme, ce qu'ils estiment intolérable et attentatoire à la majesté du Dieu qu'ils veulent aussi servir. Comme nous sommes déjà dans notre situation française d'aujourd'hui, conduit à converser souvent avec des musulmans, appelés donc à leur rendre témoignage, et que sans doute ce sera le cas de plus en plus dans les années qui viennent. Le rapport avec l'islam est probablement le grand défi lancé au christianisme évangélique pour les décennies qui viennent. Je crois qu'il nous faut être au clair sur ce titre de Fils de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Que signifie que Jésus soit appelé Fils de Dieu? J'écarterai d'abord deux malentendus. Il faut donner un coup de balai pour pouvoir ensuite y voir bien clair, mettre les choses en ordre. Il y a deux façons de comprendre que Jésus serait nommé Fils de Dieu qui ne peuvent pas tenir si nous voulons nous conformer à l'enseignement de l'Écriture sainte. Si nous voulons dire Jésus est le Fils de Dieu selon le sens même de la foi chrétienne. Deux malentendus. Le premier malentendu, je l'appelle le malentendu mythologique. Vous savez qu'on appelle mythologie tous ces récits que les païens racontent sur leur Dieu, les amours de leur Dieu, les guerres de leur Dieu. La mythologie fait le fond de pratiquement tous les folklores humains. Et l'expression de Fils de Dieu peut suggérer très, très spontanément des réminiscences des mythologies païennes. Dans les mythologies, il y a des dieux, il y a des dieux qui sont des pères, mères, il y a des dieux qui sont fils, filles, et on peut s'imaginer, lorsqu'on aborde le langage du Nouveau Testament, que Jésus est Fils de Dieu comme Zeus était le fils de Cronos. Cronos qui dévorait ses enfants, heureusement Zeus a échappé, Zeus, Jupiter. Ou qu'il est le fils de Dieu comme Apollon était le fils lui-même de Zeus, qui, parmi les innombrables coucheries qui lui sont attribuées, avait réussi à coucher avec Leto, et de cette femme avait conçu Apollon. Cette femme était elle-même fille d'un titan, donc ce n'était pas une nature humaine tout à fait simple. Le premier malentendu qu'il faut alors absolument écarter, et qui est en fait celui de l'islam, c'est que Jésus serait fils de Dieu dans un sens de ce genre. C'est absolument exclu, ça n'a absolument rien à voir. Dieu a commencé par graver de la manière la plus profonde dans le cœur et la pensée des Israélites qu'il y a un seul Dieu qu'en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre, que le Seigneur Dieu est un, unique. C'est la grande confession de foi, et Jésus l'a lui-même répété, le Nouveau Testament le répète, pour justement écarter tout sens de ce genre. Pas question d'imaginer plusieurs dieux avec un dieu fils à côté d'un autre dieu père, et éventuellement une déesse mère. On le sait, l'islam a compris la Trinité chrétienne comme une association de trois divinités, le Père, le Fils Jésus et la Mère, Marie. Voyant la vénération qui entourait dans certains secteurs du christianisme de l'époque la personne de Marie, le malentendu mythologique s'est installé et on a pris la filiation divine de Jésus comme équivalente à celle que l'on a dans les récits de l'Olympe chez les Grecs, dans des récits comparables dans d'autres peuples, chez d'autres peuples. Il ne doit pas en être question un seul instant dans notre esprit. Et je souligne aussi que la naissance virginale de notre Seigneur Jésus, qui a été conçue par un miracle du Saint-Esprit, n'a aussi absolument aucun point de contact avec ces histoires de Zeus Jupiter allant séduire plus ou moins déguisé une belle femme quelque part pour lui faire un enfant. C'est absolument pas ça. Aucune suggestion dans les textes de la Bible d'une espèce de mariage qui aurait eu lieu ou d'union entre l'Éternel et Marie. C'est une œuvre miraculeuse de création, de nouvelle création, commençant en elle. L'Esprit qui était à l'œuvre dans la création, selon le premier chapitre de la Genèse, est à l'œuvre pour entamer une nouvelle création, pour faire surgir un nouvel Adam dans le sein de Marie. Le mot esprit, d'ailleurs, est féminin en hébreu. Et rien que ça pouvait écarter le malentendu d'une espèce d'union où le rôle masculin serait tenu par un personnage céleste. C'est absolument un malentendu qu'il faut rejeter. Deuxième malentendu, lui il est beaucoup plus subtil. Je vais essayer de vous expliquer. Je l'appelle le malentendu humaniste. Jésus est un homme, et nous affirmons avec la Bible que Jésus est un homme, et certains se sont imaginés que Jésus est fils de Dieu en tant qu'homme. La qualification particulière de son humanité permettrait de lui donner le titre de fils de Dieu. Ce serait l'homme Jésus comme tel qui pourrait être appelé fils de Dieu. Trois façons principales, pour autant que je vois, d'ainsi attribuer à Jésus en son humanité le titre de fils de Dieu. Il y a d'abord la possibilité de le faire dans un sens adoptif. Jésus serait fils de Dieu en tant qu'homme juste, parce que les justes sont comme des fils adoptifs pour Dieu. Le Seigneur adopte en quelque sorte comme ses enfants ceux qui marchent dans ses voies, et Jésus, étant le juste parfait, serait ainsi fils de Dieu. Ou, plus spécialement, comme le roi, le lieutenant de Dieu sur la terre, celui qui a le pouvoir de le représenter. Le roi d'Israël était évoqué dans certains passages de l'Ancien Testament dans le langage de l'adoption. Il sera pour moi un fils, je serai pour lui un père. L'homme descendant de David. C'est la promesse que l'on a dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 7, promesse faite à David à propos de ses descendants successifs, des rois. Donc, possibilité de dire, le roi est un fils adoptif de Dieu, et Jésus, en tant que roi Messie, est appelé fils de Dieu. C'est une première façon d'attribuer le titre de fils de Dieu à Jésus en tant qu'homme. Deuxième façon, appeler Jésus fils de Dieu dans un sens révélatoire. Jésus est le fils de Dieu en tant qu'il nous fait connaître Dieu, qu'il est comme transparent au mystère de Dieu, que nous percevons ce qu'est Dieu par lui, qu'il a pour nous en quelque sorte valeur de Dieu, qu'il est l'image concrète. Comment est Dieu ? Voilà, c'est en Jésus que nous le voyons, donc nous l'appelons Dieu ou fils de Dieu pour cette raison. Deuxième façon, donc, par une sorte de métonymie, cette figure de style, appeler Jésus fils de Dieu parce qu'il est l'instrument de la connaissance de Dieu, par lequel Dieu se montre, mais sans qu'il soit vraiment Dieu lui-même. Et puis troisième façon, j'ai eu du mal à trouver un terme pour caractériser cette façon, comprendre que Jésus est fils de Dieu dans un sens diviniseur ou divinisateur. Jésus est bien fils de Dieu comme homme, mais c'est parce que l'homme qu'il est, et là les autres hommes doivent suivre dans la pensée de ceux qui suivent cette ligne, Jésus comme homme est pris dans la divinité. Dieu, en quelque sorte, se réalise dans un processus dynamique. Dieu n'est pas figé en lui-même, il réalise son être, il enrichit son être, et il y inclut l'homme lui-même, l'homme Jésus, qui se trouve comme la tête de l'ensemble de l'humanité pour une telle inclusion divinisante, divinisatrice de l'humain dans le divin. Alors à ce moment-là, Jésus est fils de Dieu en tant qu'homme, mais en tant qu'homme pris en Dieu et transformé en Dieu. Ça, c'est une façon qui a d'assez nombreux adeptes parmi les philosophes modernes. Vous avez peut-être entendu parler du très grand philosophe Hegel, Georges Guillaume Frédéric Hegel, le très grand philosophe du début du XIXe siècle, qui fut le maître à penser de Marx. S'il n'y avait pas eu Hegel, il n'y aurait jamais eu de marxisme. Eh bien, ce Hegel a conçu une nouvelle vision qu'il a appelée dialectique de Dieu. L'histoire du monde réalise l'être de Dieu et l'humain est une étape dans ce devenir de Dieu qui se réalise lui-même. Donc, on peut parler de fils de Dieu pour l'homme en tant qu'homme, qui est intégré dans la vie divine. Et la pensée de ce philosophe exerce encore une forte influence aujourd'hui. J'ai dit que cette deuxième mésinterprétation, ce deuxième malentendu sur le sens de Jésus, fils de Dieu, était beaucoup plus subtil que le malentendu, mais mythologique. La subtilité, c'est qu'il y a comme une parcelle de vérité. Nous allons encore nous en rendre compte, ce n'est pas dans ce sens que la Bible proclame que Jésus est le Fils de Dieu. La première épître de Jean nous obligerait à dénoncer comme des idoles ces façons de penser que nous venons de résumer. Si elles veulent rendre compte de la personne de Jésus. Mais il est vrai que dans la Bible elle-même, parfois le titre de fils de Dieu est employé pour des hommes, au sens simplement d'homme juste ou de roi adopté par Dieu. C'est vrai que c'est un usage. Or ce n'est pas l'usage dans la première épître de Jean au chapitre 5 et dans la plupart des passages. Mais on ne peut pas exclure que deux ou trois fois au moins dans le Nouveau Testament, ce soit dans ce sens que Jésus est appelé fils de Dieu. Il nous est dit que lors de la crucifixion, quand il y a eu des ténèbres, lorsque des phénomènes frappants ont montré que la mort de Jésus n'était pas un événement anecdotique, le centurion s'est écrié Certainement, cet homme était fils de Dieu. Voilà ce que nous rapporte l'évangile de Marc, chapitre 15, verset 49. Mais si vous lisez le même récit dans l'évangile de Luc, vous avez simplement, le centurion a dit, certainement cet homme était un juste. Alors l'explication la plus simple de cette petite différence, c'est que Luc, sachant pour quel public il écrivait, a traduit l'expression « fils de Dieu ». Luc, qui était de culture grecque, et qui écrivait davantage pour un public grec, savait que s'il employait là la formule « fils de Dieu », on prendrait ça dans un sens mythologique, et ce n'était pas ce que le centurion avait voulu dire. Donc, c'est comme un homme juste qu'il était appelé « fils de Dieu ». Probablement, en tout cas. Ou bien, au début de l'évangile de Jean, au chapitre 1er, Nathanaël, qui ne connaît pas encore du tout Jésus, à qui on vient d'en parler, rencontrant Jésus et découvrant en lui un prophète, les premiers disciples lui ont dit « Est-ce que c'est pas lui qui serait le Messie ?» Et il a dit « Ouf, non, de Nazareth, qu'est-ce qui peut venir de bon ?» Non, non. Mais il a rencontré Jésus, et Jésus a montré sa connaissance surnaturelle en lisant « Quand tu étais là sous le figuier, je t'ai vu. » Et c'était certainement important pour Nathanaël. Donc, il s'est rendu compte que Jésus n'était pas un homme ordinaire, et alors tout de suite il a dit « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Je pense qu'à ce stade, Nathanaël, qui découvre juste la personne de Jésus, à qui on a dit « Est-ce que c'est pas le Messie ?» il ne pense pas à Jésus comme Fils de Dieu au sens fort. En ajoutant le roi d'Israël, il explique sans doute dans quel sens il emploie l'expression de Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est-à-dire le roi d'Israël. Donc probablement, dans l'esprit de Nathanaël, ça ne veut dire que le roi Messie comme fils adoptif de Dieu. Donc on ne peut pas écarter, c'est là la subtilité, que dans quelques passages, et dans l'esprit de personnes qui parlent, le titre de fils de Dieu n'est qu'un sens humain. Mais bien sûr, ce n'est que quelques passages. Dans la plupart, cela ne convient pas. En ce qui concerne l'idée que Jésus est pour nous l'image de Dieu, c'est par lui que nous connaissons Dieu. Et bien sûr, c'est bien ce que nous enseigne la Bible. Et s'il est appelé le Fils, nous allons y revenir, c'est parce que dans la divinité même, il a ce rôle d'exprimer l'être de Dieu, d'être l'image du Dieu invisible. Donc il est juste de se concentrer sur cette fonction révélatoire lorsque l'on pense à Jésus comme fils de Dieu. Mais ce qu'il faut ajouter tout de suite, c'est que Jésus est fils de Dieu en tant que Dieu lui-même. Que précisément, il nous révèle Dieu parce que seul Dieu peut révéler Dieu. Vous vous rappelez ce que Blaise Pascal a dit, « Seul Dieu parle bien de Dieu ». Je pense qu'on doit retenir cette formule comme une vérité radicale, de validité absolue. Pour que nous connaissions Dieu, il nous faut Dieu lui-même, se faisant connaître à nous. Pour que Dieu ne soit pas un grand inconnu infiniment au-delà, lui le Dieu absolu, il fallait qu'il vienne lui-même jusqu'à nous. Et c'est pourquoi, fils de Dieu, c'est Dieu le Fils. Mais c'est vrai que, comme Dieu le Fils, il a cette fonction de révélation. Donc il y a une parcelle de vérité. Et même l'idée que l'homme est pris dans la divinité, elle est fausse comme telle, hein, dans cette formulation, il faut la rejeter. C'est une idolâtrie de l'homme, en fait. Et je me suis souvent laissé dire, je donne un cours sur lui, hein, parfois, que Hegel est vraiment le penseur de l'Antichrist. Le penseur de l'Antichrist, qui élève une image de l'homme qui se fait Dieu, qui prend la place de Dieu dans le temple de Dieu. Donc, La formule est fausse en elle-même. Mais il est vrai qu'il y a une affinité entre l'homme et Dieu. Que l'homme n'est pas n'importe quelle créature. Et que si Dieu s'est fait homme, c'est à cause de cette relation constitutive de l'homme comme image de Dieu. Certains théologiens du Moyen-Âge discutaient pour savoir si Dieu aurait pu s'incarner dans un âne. C'est une pensée blasphématoire. Vraiment, je crois qu'il faut rejeter même toute pensée de discussion sur un tel point. Non, parce que il y a un lien entre le statut propre donné à l'homme dans la création de Dieu et cette capacité qu'a eu Dieu, de Dieu le Fils, de devenir homme. Et cela, les théories de Hegel ou d'autres, en quelque sorte, le frôlent. On pourrait dire qu'il y a quand même comme un reflet de vérité qui s'y trouve encore, bien que déformé. Donc, malentendu à écarter. Alors, quel sens à retenir? D'abord, Jésus est le second de la Trinité. Il s'appelle Jésus lorsqu'il devient homme, mais avant de devenir homme, il existe déjà, et il existe comme la seconde personne de la Trinité. Voilà ce que veut dire que Jésus est le Fils de Dieu. On ne peut vraiment bien comprendre l'usage du titre de Fils de Dieu qu'en considérant la doctrine de la Trinité, qui est une espèce de synthèse des indications que la Bible nous donne à ce propos. La doctrine de la Trinité, c'est en fait, comme a dit quelqu'un, quelque chose qu'on dit sur Jésus. C'est pour rendre compte de Jésus, Jésus Fils de Dieu, qu'on a dû élaborer la doctrine de la Trinité. Que signifie-t-elle, au stade où nous en sommes de notre élucidation? Elle signifie que l'unité et l'unicité de Dieu, un seul Dieu, il ne faut pas en démordre, un seul Dieu, ce ne doit pas être compris d'une manière pauvre, je dirais bête finalement, comme quand on dit il y a un pion sur un échiquier. Hein. L'unité de l'être divin est une unité riche, complexe, une unité différenciée qui a en elle-même toute la richesse du multiple. Voilà ce que veut dire la Trinité. Ce n'est pas l'unité pauvre d'une unité de poids, de mesure, une unité abstraite, décolorée, c'est l'unité d'une vie, d'une richesse infinie, et qui contient en elle-même aussi la multiplicité, le pluriel si vous préférez. Il faut bien se rendre compte que si on refuse ça, en fait, on n'a que deux solutions. Si on refuse de dire que la richesse du pluriel est dans le Dieu unique, si on refuse de dire ça, on n'a que deux solutions. Ou bien on dit, il y a un deuxième Dieu, alors il y a le pluriel. Il y a deux principes, il y a l'unité et il y a la multiplicité, l'un et le multiple. Ça fait deux dieux, deux principes absolus. Donc en fait, on n'a plus un seul Dieu. Et c'est ce qui arrive dans certaines philosophies. Parce que s'il ne l'a pas en lui-même, donc c'est un principe qui existe par lui-même, en quelque sorte, face à Dieu. Ou bien alors, on dit, le pluriel n'existe pas. C'est une illusion d'optique. C'est un jeu illusoire d'apparence. Ça a correspondu à une grande tendance de la pensée indienne qui emploie le mot maya pour dire ça. Tout ce qui semble être pluriel, nous sommes plusieurs personnes différentes, etc., mais c'est une illusion en fait, une illusion d'optique. Le sage y comprend qu'il n'y a que l'unité, qu'il est lui-même l'absolu. C'est une formule clé de la philosophie indienne. Si on refuse que le pluriel soit en Dieu, on est logiquement écartelé entre ces deux possibilités qui sont l'une et l'autre négatrices de l'affirmation qu'il y a un seul Dieu, mais distinct du monde, si pour qui porte vraiment les noms de Dieu. Donc, la Trinité implique un seul Dieu, mais un seul Dieu qui a toute la richesse du multiple en lui-même. Et alors, dans cette vision, Jésus est l'un des foyers de conscience, foyer de relation de cet être divin différencié. Il y a un seul Dieu, pas plusieurs dieux, un seul être. Mais cette vie infinie s'organise autour de tout ce qu'on peut appeler comme des foyers de relations, des centres de conscience, des foyers d'amour. Car c'est là la donnée que la Bible nous révèle. Le Dieu unique est amour. Le Dieu unique est amour et il n'a besoin de personne d'autre en dehors de lui, sinon il ne serait pas vraiment unique, pour être amour. Cela veut dire qu'il n'est pas seul. S'il est amour, il est plusieurs en même temps qu'il est un. Le Père aime le Fils. Le Fils aime le Père. Et Jésus est Fils dans ce sens qu'il est le second foyer d'amour, centre de relation dans l'être divin. Et c'est ce qu'on appelle classiquement en théologie trinitaire personne. Lorsque on dit un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit, il ne faut pas, de nouveau, comprendre le mot personne selon l'image que nous pouvons avoir d'individus séparés, de Pierre, de Jacques et de Jean. Mais non, le mot personne a un sens là particulier. Il désigne ce que j'ai évoqué en disant centre de conscience, foyer d'amour, qui sont unis et distingués par les relations qui les lient, tout l'être divin étant en chacun. Chacune des personnes, c'est l'être divin qui n'existe qu'une seule fois. Il faut bien saisir cela. Une image pour montrer que ce n'est pas du tout absurde, contrairement à ce que certains peuvent imaginer en prenant les choses de l'extérieur. Juste une image, parce qu'elle est encore bien pauvre comme image. C'est celle de l'espace. L'espace existe une seule fois, uniquement. Or, les trois dimensions de l'espace, qui sont parfaitement distinguées, la longueur, la largeur et la hauteur, elles sont parfaitement distinctes et elles correspondent chacune à tout l'espace. Tout l'espace est longueur. Tout l'espace est largeur, tout l'espace est hauteur. Mathématiquement, vous pouvez dire que tout l'espace est constitué par la somme infinie de toutes les droites selon la longueur, et puis de toutes les droites selon la largeur. Donc vous avez là trois dimensions qui constituent un seul être-espace, et qui ne se confondent pas pourtant, qui sont bien distincts. Alors c'est une analogie très très pauvre, en ce sens qu'il ne s'agit pas de personne. Il ne s'agit pas de ces centres de conscience capables d'aimer ce que nous révèle l'Écriture en ce qui concerne les personnes, ces centres de conscience dans la divinité. Mais je cite cette analogie parce qu'elle peut être utile à quelqu'un et qu'elle montre en tout cas qu'il n'y a rien d'absurde. Cela dépasse notre imagination et nos facultés de comprendre, mais cela est peut-être sobrement affirmé, notre intelligence peut s'y attacher, peut le méditer, notre réflexion peut y trouver grand profit. Donc Jésus est Fils de Dieu, selon le sens de la doctrine trinitaire, selon qu'il y a en Dieu une différenciation éternelle de foyers de conscience qu'on appelle les personnes, et il est la deuxième personne. de la Trinité qui constitue un seul Dieu. Mais il faut continuer, pour bien comprendre, à préciser les relations qui unissent ces foyers de conscience et d'amour. On les appelle paternité, engendrement ou génération, au sens d'engendrement, filiation, avec le titre, père-fils. Bon, la première chose à dire à ce propos, c'est que c'est bien sûr un langage analogique. Comme pour le mot personne, il ne faut pas se représenter selon l'exacte similitude de la paternité des créatures terrestres, de la filiation telle qu'elle se réalise chez les humains, ce qui se passe en Dieu. Bien sûr, il faut là reconnaître la différence que le mot analogie exprime. L'analogie, c'est, le mot veut dire proportion, rapport, c'est une certaine ressemblance, mais avec des différences aussi. Quand deux choses sont analogues, elles ne sont pas identiques. Deux sens analogues ne sont pas simplement le même sens. Mais en même temps, ces deux choses ont des points de comparaison. Ces deux choses se ressemblent au moins par certains traits. Voilà la notion d'analogie. Alors, en ce qui concerne la divinité, bien sûr, Dieu le Père, autrement que ne sont les peuples terrestres, Dieu et Fils, deuxième personne, autrement que ne le sont les fils terrestres. Et si on se met à raisonner en disant « Oui, mais un fils et un père sur la terre », bien sûr, c'est qu'on n'a rien compris. On a compris qu'il s'agit d'un langage analogique, comme d'ailleurs est analogique pratiquement tout ce que l'on dit sur Dieu. L'infini de l'être absolu, nous en parlons avec nos mots, que nous associons aux réalités terrestres que nous connaissons d'expérience immédiate, et si nous ne transposons pas, nous nous égarons. Le pouvoir d'agir, par exemple, la mémoire, si nous transposons simplement en Dieu la manière dont les choses se passent sur la terre, bien sûr, ça ne joue plus. La paternité et la filiation en Dieu sont éternelles. Et si les pères de l'Église, pendant un siècle et demi, ont tâtonné à ce propos, ils ont bien dû, pour être fidèles à la Bible, se rendre compte à l'évidence. Quand on dit que Dieu a engendré le Fils, c'est une vérité éternelle. Ce n'est pas arrivé à un moment. Il n'y a jamais eu de temps, entre guillemets, dans l'éternité divine, où Dieu ait été sans Fils. Mais non, cela doit être tout à fait exclu. Quels sont les points de ressemblance, alors, qui font que l'analogie peut être affirmée? Je pense qu'on peut dire que parmi les points de ressemblance principaux, il y a d'abord une certaine unité d'être. Entre un père et un fils, c'est le même matériel génétique. Alors bien sûr, dans la mer aussi, sur la terre. Mais d'une certaine façon, on pourrait dire génétiquement, c'est l'être du père qui se retrouve dans le fils. Et que la seconde personne de la Trinité soit appelée le Fils est là pour souligner que c'est le même être que le Père. Alors là, c'est à 100% absolument, et sans coupure, comme il y a entre les générations humaines. Mais voilà un élément de ressemblance. Le Père et le Fils partagent un même être, le mot même de partage. Il n'est pas tout à fait juste, parce qu'il n'y a pas de coupure, de part que l'on sépare. Quel autre élément? Donc, il y a l'élément d'ordre. Le Père vient d'abord, le Fils vient ensuite. Cela vaut, je crois, aussi dans la Bible. Il y a un ordre. Il y a la collaboration. Dans les mœurs de l'époque biblique, en tout cas, le Fils restait en général à la maison et travaillait avec son Père.
Ils entreprenaient ensemble. Ils servaient un même dessein. Le Père et le Fils, dans la Trinité, œuvrent ensemble au même dessein. Le Père a envoyé le Fils pour réaliser son dessein d'amour et de salut. Il y a la similitude. Jésus lui-même a beaucoup insisté. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est le leitmotiv de Jean 5, du chapitre 5. Jésus a dit cela pour justifier le fait qu'il guérissait le jour du sabbat. Il a dit, mais je fais comme mon Père. Le Fils fait tout pareillement au Père. Le Père, dans son sabbat, depuis le moment où il a cessé de travailler à la création du monde, il guérit. Le Père accomplit des œuvres de délivrance et de guérison. Dans toute l'histoire de l'humanité, eh bien, moi, le Fils, je fais tout pareillement, et je peux donc guérir le jour du sabbat. Et il souligne que de même que le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le Père juge, il a donné tout jugement au Fils, mais le Fils fait tout pareillement au Père. Et voilà ce qui nous enseigne le sens de la filiation divine de Jésus. Unité d'être, collaboration, amour mutuel. Voilà ce qui nous explique dans quel sens Jésus est appelé Fils de Dieu. Et il faut ajouter, pour que l'on comprenne bien, il ne s'agit pas, avec cette analogie, de quelque chose que nous projetterions à partir de notre connaissance de la paternité ou de la filiation sur la terre. Certains s'imaginent qu'on commence par là. Nous savons ce qu'est un père humain, ce qu'est un fils, et puis, en fonction de notre expérience de Dieu, nous projetons, sachant bien que ce ne sera pas tout à fait adéquat, mais nous projetons vers l'infini l'image de la paternité, l'image de la filiation. À ce moment-là, je ne suis pas très sûr. Et la Bible ne présente pas les choses de cette façon. Elle nous dit en fait que le premier terme dans l'analogie, c'est Dieu. Il ne faut pas penser qu'on commence par la paternité et la filiation humaine, et à partir de là, on projette une image vers le ciel. La paternité et la filiation sont en Dieu d'abord. Et c'est lui qui a créé la paternité et la filiation humaine pour servir d'image, de reflet terrestre à sa paternité, à sa filiation. C'est ce que je pense Paul veut dire très clairement dans le texte de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, verset 15, quand il dit qu'il fléchit le genou devant le Père, duquel toute famille, en grec, patria, un mot qui dérive de pater, père, toute patria tire son nom. Et le nom évoque l'être. Toute paternité, toute structure familiale impliquant paternité ou filiation, tire son être du Père céleste, premier et dernier. Donc, d'abord, la filiation divine de la seconde personne de la Trinité, et ensuite son reflet analogique qui nous sert, nous, à comprendre, bien sûr, ce que Dieu veut dire quand il nous dit que Jésus est son Fils, lorsqu'il rend ce témoignage dont nous avons lu l'affirmation si forte dans la première épître de Jean. Et pour nous aider à comprendre encore mieux ce que je viens d'expliquer, la Bible utilise quelques autres titres comme en parallèle pour nous permettre de comprendre, d'une part, qu'avec le mot « fils », nous avons une analogie, et pour nous permettre de mieux saisir encore tout ce qu'elle implique. Il y a le mot d'image que j'ai évoqué. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, nous dit du Fils, et je crois que la structure du passage le montre bien, c'est le Fils dans son être éternel. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Dieu a en lui son image. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut ensuite se révéler au dehors. Parce que le principe même de la révélation est en lui. Dieu s'exprime il n'est pas un Dieu qui, en quelque sorte, se refermerait sur lui-même. Il produit en lui-même sa parfaite image de lui-même, son alter ego qui est son fils. Deuxième personne. Le mot image est employé. Il y a tout le thème sur la sagesse. La sagesse qui est auprès de Dieu dans la création, qui œuvre avec lui dans la création. Jésus a pris le titre de la sagesse éternelle que Dieu a en lui-même. Et c'est sans doute pour faire la jonction entre ces deux thèmes que Jean a eu l'audace d'utiliser le titre de verbe ou logos, traduit aussi parfois parole, pour la personne du Fils. Au lieu d'employer le titre de fils, il commence son évangile en employant ce titre de verbe logos. Logos veut dire la parole, mais aussi la raison, la pensée, en grec. Et c'est pour ça que je continue à dire logos souvent, parce que c'est à la fois l'idée de révélation et l'idée de sagesse. La sagesse que Dieu a en lui-même, par laquelle il crée, par laquelle il fait tenir tout ensemble dans le monde, dans l'univers. En employant ce titre de parole, verbe, logos, qui se retrouve aussi dans la première épître, dans les premiers versets de la première épître de Jean, et aussi dans l'Apocalypse, au chapitre 19, parole de vie dans la première épître, et parole de Dieu dans l'Apocalypse, en employant ce titre donc de logos, Jean nous suggère la manière dont le Fils est Fils. C'est un peu la manière dont une personne humaine a en elle-même sa pensée qui va s'exprimer par sa parole, qui va la révéler aux autres par sa parole. On a pu remarquer d'ailleurs que le mot d'engendrement, nous en sommes très très proches en parlant d'une conception de notre pensée. Nous disons que nous avons conçu ceci ou cela. C'est le langage de l'engendrement. Vous voyez à quel point ces images se recouvrent. Et quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, en tant qu'il est son logos, sa parole éternelle en lui-même, en fait, on a un point de contact avec le Coran. Et ça peut être intéressant de le savoir pour le témoignage auprès des musulmans. Car si le Coran est tellement choqué, comme je l'ai dit, par l'idée que Jésus soit fils, il appelle Jésus parole de Dieu. C'est une, bon, il dit une, on veut dire là, une parole de Dieu, un esprit, au nom de Dieu. Et Dieu étant esprit, il faut bien dire que la seconde personne de la Trinité, en effet, est esprit. Là, ça se trouve dans le Coran, comme l'affirmation de la naissance virginale aussi d'ailleurs. Donc là, il y a des points de contact. Quand l'on parle à des amis musulmans, il faut dire, mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec la mythologie. Il ne faut pas comprendre ça à la manière des filiations humaines, et surtout pas diviniser Marie. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est dans le sens qu'il est la parole. La parole que Dieu a toujours en lui-même, la raison parole. Dieu n'a jamais été dépourvu de sa raison parole en lui-même. Et peut-être que ça peut servir d'élément d'entrée lorsque l'on parle avec un musulman. En tout cas, la vision que nous avons, je pense, peut nous apparaître maintenant dans toute sa majesté. Comment Dieu peut être à la fois un et pluriel en lui-même? Oui, ça dépasse nos facultés de représentation. C'est incompréhensible au sens que les théologiens ont donné à ce terme. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas maîtriser, nous ne pouvons pas embrasser tout ça et, en quelque sorte, nous mettre au-dessus. Mais ce n'est pas inintelligible. Dieu nous a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et justement, en Jésus, notre intelligence peut découvrir là l'harmonie, la place de l'homme dans la création de Dieu, et le fait alors que toute plénitude est vraiment en Christ. lui qui est l'image du Dieu invisible de toute éternité et qui est devenu homme, image créatrice, créaturelle de Dieu sur la terre. Tout à la fois, toute plénitude en Jésus-Christ. Voilà le sens que nous pouvons donner, je crois, à notre confession de foi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Nous avons quelques minutes pour des questions. Si vous souhaitez en parler, oui, Mme Cobria. Alors la question porte sur la relation de ce que nous avons dit avec la vérité des deux natures de Jésus-Christ. Jésus-Christ a deux natures, la nature divine et la nature humaine. À quelle nature se rapporte le titre de Fils de Dieu? Alors ce que j'ai voulu exposer, c'est que c'est à sa nature divine, c'est-à-dire à l'être divin. La nature divine, c'est pas autre chose que l'être divin, le Dieu. Dire qu'il a la nature divine, c'est dire qu'il est Dieu, qu'il n'existe qu'une fois. C'est à sa nature divine, au fait qu'il est Dieu de toute éternité, que se rapporte le sens du titre Fils de Dieu. Il est le second de la Trinité de toute éternité. Il est un avec le Père. Il est distinct de lui comme son image interne, son expression que Dieu a en lui-même. Il est un foyer d'amour qui reçoit l'amour du Père et qui renvoie un amour réciproque. Et on a pu dire que le Saint-Esprit était le nœud de cet amour du Père et du Fils. Cela dans la nature divine qui est l'être divin. Nous n'avons pas à penser à la nature autrement que l'être divin lui-même. Mais ce que j'ai voulu, et comme j'ai dû comprimer les choses un peu, donc ça n'a peut-être pas tout à fait été perçu, ce que j'ai voulu souligner aussi, c'est qu'il y a une harmonie entre cette vérité première et fondamentale de Jésus-Christ comme Fils de Dieu et le fait qu'il prenne chair humaine, qu'il devienne homme, qu'il revête la nature humaine sans perdre la nature divine. Ce ne sont pas deux natures simplement étrangères, car l'homme a été fait en image de Dieu. C'est une créature infiniment au-dessous du Créateur, mais faite pour l'union à lui, faite pour la communion avec lui, et comme son image, de telle sorte qu'il y a une harmonie quand le Fils de Dieu éternel devient homme, image de Dieu humaine aussi. Il est l'image de Dieu éternel et il devient image de Dieu terrestre, combinant, selon ses deux natures, les deux dans sa personne. Et je peux ajouter à ce propos, j'espère que ça ne va pas compliquer les choses, mais c'est pour moi une preuve biblique qu'il faut ainsi penser, que l'expression Fils de Dieu est au moins suggérée par la généalogie que Luc donne de Jésus, qui dit qu'il était fils, alors qu'on croyait de Joseph, de, etc., d'Adam, Fils de Dieu. Là, il semble que ce soit Adam qui soit appelé Fils de Dieu. Alors le mot fils est sous-entendu, hein, dans l'original, signal quand même. Mais c'est une généalogie, donc on le pense normalement. Adam est appelé Fils de Dieu dans le sens créaturel, d'image terrestre. Dans mon livre Révélation des origines, je suggère d'employer l'expression quasi-fils, parce que ça reste terrestre, créaturel. Mais le fait d'être image de Dieu, c'est jouer un rôle de fils par rapport à Dieu sur la terre. Jésus, Fils de Dieu éternel, devient Fils de Dieu créaturel aussi, unissant, selon ses deux natures, les deux titres, en quelque sorte, en sa personne. Monsieur Richard.
La seconde d'abord du format qui répond, mais c'est peut-être intéressant pour nous de redécouvrir l'importance de la création du Dieu créateur. Il me semble que là les choses sont très imbriquées à travers la question des deux natures de Jésus. Pourquoi Dieu crée dans l'espace et dans le temps, et comment se retrouve cette première création dans la gloire de la seconde et la perfection de la seconde, qui est déjà tellement annoncée dans celle que nous connaissons. Mais la question que je voulais d'abord poser, c'est celle du cri de Jésus sur la croix, qui n'est pas formulé « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est qu'est-ce qui se passe là entre les deux natures et par rapport à l'être de Dieu qui nous est dévoilé précisément à ce moment-là sur la croix.
Alors, je réponds à la question principale qui concerne le cri de Jésus à la croix. Mon Dieu, il ne dit pas Père. mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui se passe à l'égard du Père et du Fils et des deux natures dans ce moment de la croix qui fait crier Jésus de cette façon? C'est certainement un des points les plus mystérieux de toute la Bible, que ce moment où Jésus crie « Eli, lama, sabachthani », donc je ne prétends pas tout élucider. Je pense cependant qu'on peut écarter des malentendus. D'abord, ce n'est pas un cri de désespoir, Jésus voyant toutes ses attentes déçues, désespérées. Jésus cite en fait le psaume 22, qui est un psaume prophétique qui annonçait sa souffrance et qui annonçait aussi le fruit de vie qui en résulterait. La fin du psaume fait entendre une note de salut et d'espérance. Alors, quand Jésus dit les premières lignes de ce psaume, il faut penser à tout le psaume. Il marque qu'il accomplit la prophétie en criant ce grand cri. C'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième, c'est qu'il faut écarter absolument l'idée d'une déchirure de la Trinité, de l'être divin. C'est simplement complètement irresponsable de penser de cette façon. L'être divin, qui est l'être unique, le Père et le Fils sont un, ne peut pas se déchirer. Ça voudrait dire que Dieu éclaterait, mais c'est de la folie, c'est insensé. Oui, elle a tiré parfois quelques profits, mais elle le dit de façon très ambiguë aussi. Hein. Cette théologie très nocive qui s'est appelée théologie de la mort de Dieu. Dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 5, l'apôtre nous dit clairement que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et le contexte montre que c'est à la croix. Donc, imaginer une séparation dans l'être, non, c'est tout à fait exclu. Troisième remarque, il faut distinguer les deux natures. Jésus en tant que Dieu, seconde personne de la Trinité, et Jésus en tant qu'homme, mais il faut se rappeler que les natures sont un ensemble de caractéristiques, que ce qui existe concrètement, c'est la personne. L'être divin, les trois personnes divines constituant un seul être, et puis un ensemble de qualités, de relations qu'on appelle nature humaine, que Jésus a endossé. Mais ce n'est pas la nature humaine qui souffre, c'est la personne qui souffre. Et c'est la personne qui éprouve au moment de la croix, une souffrance qui s'exprime par le cri. Alors elle éprouve cette souffrance au moyen de tel ou tel élément de l'une ou l'autre de ses natures. Une pâle analogie, c'est celle de l'âme et du corps. C'est pas notre corps qui souffre quand nous cognons. C'est nous qui souffrons. Mais nous souffrons par notre corps. De même, je pense qu'on doit dire que la personne divine et humaine de Jésus souffre par son humanité, par son corps et son âme d'homme. Mais c'est la personne qui souffre. Il ne faut pas dire l'humanité souffre, c'est sa personne. Parce qu'il y a une seule personne. Et dernier commentaire sur cette grande question que Jacques a soulevée. Je crois que Jésus n'exprime aucun désespoir, aucune défaillance de sa foi dans ce cri, mais qu'il exprime ce qu'il ressent vraiment en son âme d'homme. Et qu'il ne faut pas non plus donc sous-estimer la charge dramatique de ce cri. Certains commentateurs ont essayé de le faire, mais je crois que ça, nous n'avons pas le droit. Et que nous pouvons comprendre que Jésus, depuis le sein de sa mère, je pense même que comme fœtus, il en avait une sorte d'expérience, éprouvait dans son humanité, dans toutes ses facultés humaines, la présence du Père Céleste, la présence de Dieu avec lequel il était un dans sa divinité, que c'était sa béatitude. L'homme ordinaire ne fait pas cette expérience par cause du péché, mais Jésus sans péché était inondé de l'amour du Père. Dès sa toute petite enfance, dès ses premiers mois d'existence, c'était la lumière qui l'inondait en permanence et qui le remplissait d'une joie parfaite constamment. Et je pense que c'est ça qu'il a cessé d'éprouver à la croix. Parce que cela était incompatible avec le fait d'être traité comme un pécheur, portant le péché du monde, portant notre péché. Cette expérience que le Père lui avait donné de faire en son âme et son corps d'homme de tout le temps, et qui était le bien le plus précieux de la vie de Jésus, de cela il a été privé à la croix. Et c'est ça qu'il a exprimé en reprenant les paroles du psaume, en se rendant compte qu'il accomplissait ainsi les paroles du psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors quant à l'autre point qu'avait soulevé M. Jacques Richard, l'importance de la doctrine de la création, du rapport à celle de la rédemption, c'est un grand sujet, en effet, il vaut mieux ne pas essayer de l'aborder maintenant. Encore deux questions, je vais essayer de répondre très brièvement, M. Berger et puis M. Weyenberg.
Et c'est souvent cette question de Dieu est unique,
oui.
Et que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Par conséquent, c'est une créature, puisqu'il est le Fils.
Mm-hmm.
Alors, je voudrais savoir si j'ai raison quand je leur dis que Dieu est un individu, c'est-à-dire qu'il est indivisible. Mm-hmm. Et moi, je suis un indivisible. Mes mains, mes gens font ce que moi je veux. Ils sont moi. C'est ça.
Oui. Monsieur Berger donc dit qu'il répond aux témoins de Jéhovah quand il converse avec eux que Dieu est individu au sens propre du terme, c'est-à-dire indivisible. Et il demande s'il a raison de parler ainsi. Moi, je souscris tout à fait. Je dis exactement de même. Monsieur Weyenberg.
Donc, est-ce qu'il ne faut pas tirer la conclusion que notre Seigneur Jésus, au moment où il est crucifié, est bien mon fils, aussi, pour nous mettre l'avancement, comment faut-il alors envisager cette action?
Donc, la question porte sur les textes de la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, Jésus-Christ fait péché pour nous, sur le fait qu'il a été maudit, comme pendu au bois, selon que Paul le souligne dans l'épître aux Galates au chapitre 3. Comment penser à cela, et en particulier en se rappelant que Dieu ne peut pas souffrir le péché, ne peut pas être uni au péché. Si Jésus-Christ a été fait péché pour nous, alors, de nouveau, nous sommes au centre du mystère même de notre salut. Mais je répondrai essentiellement par deux points à la question. D'abord, c'est la réponse générale, il faut nous rappeler que Jésus-Christ est maudit, qu'il porte les péchés en tant qu'il est notre substitut. Ce qui veut dire que la relation de Dieu à lui a un caractère double. D'une part, il est le Fils bien-aimé que Dieu a envoyé en mission pour cela, qui accomplit la volonté du Père, et d'autre part, il porte les péchés. Ce n'est pas ses siens propres. Et du coup, le rapport du Père à lui est un rapport double. D'une part, il lui fait sentir la colère que Dieu a contre le péché, c'est-à-dire son indignation brûlante à l'égard du péché, et d'autre part, il aime ce Fils plus que jamais, si ça avait un sens. Il est en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Contrairement à la situation que l'on a avec un pécheur endurci, qui est simplement uni à son péché, nous avons une situation double, car Jésus porte un péché qui n'est pas le sien, et pourtant c'est lui qui le porte. Ce qui fait que le rapport du Père à lui est double. Et c'est ce qui me fait dire que, quant à l'être, il n'y a pas de déchirure dans la Trinité, mais que l'expérience que Jésus fait de la présence du Père, de l'amour du Père, lui est retirée, parce qu'il porte le péché. Parce que l'attitude de Dieu à l'égard du péché, là, se fait sentir. Puis la deuxième chose que je répondrai, c'est que pour le texte de 2 Corinthiens 5, 21, si je me rappelle bien, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, il y a au moins une possibilité d'interprétation. Alors les exégètes évangéliques n'en sont pas tous d'accord, mais il se trouve qu'en hébreu, le mot péché peut servir pour le sacrifice pour le péché. On dit le péché, comme si on mettait des guillemets, pour dire le sacrifice pour le péché. Et certains interprètes, donc, suggèrent qu'en 2 Corinthiens 5, 21, il faudrait comprendre, Dieu l'a fait devenir sacrifice pour le péché, pour nous. Mais là, il y a un débat, je ne veux pas trancher. Excuse-moi, alors...
De Jésus, fils
et fils premier-né. Oui. Oui, c'est un point que j'ai laissé de côté, faute de temps. Monsieur Gendrel demande de préciser le sens de Jésus comme fils premier-né. Ce qui montre bien que Jésus n'est pas fils selon l'humanité, par l'humanité, selon le malentendu humaniste, c'est qu'il y a des adjectifs qui sont utilisés dans le Nouveau Testament pour qualifier encore le titre de fils. Il y en a trois, essentiellement. Le propre fils. Dieu a envoyé son propre fils. C'est Paul qui emploie ce terme. Le premier-né, prototokos, et également chez Jean, encore un autre terme, qui a été traduit unique, fils unique, dans la version seconde, et nous sommes habitués à cette traduction, mais qui a été compris traditionnellement dans la Vulgate, ou bien dans les versions anglaises ou allemandes, comme « seul engendré ».« Only begotten » en anglais, par exemple. « Seul engendré », pour bien marquer la différence avec les fils d'adoption. Et ce titre-là, il est employé de manière constante dans l'Évangile de Jean. Et je crois que c'est là ce qui nous montre bien qu'il ne faut pas confondre la filiation divine, trinitaire de Jésus avec ce qui peut être dit pour des humains adoptés par Dieu. Voilà, merci bien, donc nous nous arrêtons là maintenant.